La revue de presse internationale, Camille Manière, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité internationale ce matin, il y a la démission du Premier ministre libanais Saad Hariri après 13 jours de révolte populaire.
Ouvrir une brèche pour sortir de l'impasse, formule choisie par Jeanine Jalque ce matin dans L'Orient le Jour pour tenter de nous expliquer la stratégie mise en place par Saad Hariri au moment d'annoncer donc sa démission sans en avoir parlé à personne ou presque, même pas en tout cas au président Michel Aoun. En créant volontairement ce choc, analyse la journaliste libanaise, Hariri a voulu mettre ses partenaires de gouvernement conspués par la rue depuis deux semaines au pied du mur. Eux, à commencer par le Hezbollah, refusaient de plier. Des partisans du parti chiiste s'étaient même attaqués au campement installé dans le centre de Beyrouth par les manifestants hier. Et c'est cette menace d'une escalade de violence entre civils qui semble avoir décidé le chef du gouvernement à céder. Mais Saad Hariri n'a pas pour autant l'intention d'être un fusible ou un martyr, nous dit aussi Jeanine Jalque. S'il renverse la table, c'est pour mieux négocier son retour. Son entourage laisse déjà entendre qu'il pourrait se voir confier la formation d'un nouveau gouvernement, composé selon la formule désormais classique à travers le monde d'experts, de technocrates, de personnalités neutres. Faut-il y voir une manière de se refaire sans trop de casse, une virginité auprès des foules en colère, comme le fait Issa Gorayeb dans son édito toujours pour L'Orient le Jour? Saad Hariri, en tout cas selon lui, fait le pari qu'en prenant l'initiative de démissionner alors que les autres courants politiques s'accrochent au pouvoir, il va reconstituer une part de son capital de popularité, en particulier auprès d'une communauté sunnite libanaise qui ne se privait pas ces derniers temps de montrer des signes de lassitude et même d'irritation. Mieux encore, et c'est ce qui permet à Issa Gorayeb de parler d'une pierre trois coups, Hariri espère qu'en surfant sur les discours dégagistes de la rue, discours qu'il semble étonnamment ne pas s'appliquer à lui-même, il pourra reprendre seul le pouvoir sans devoir repasser par cet aberrant ménage à trois auquel il est contraint depuis 2016 avec le parti chrétien du président Aoun et avec le Hezbollah.
On le comprend, Saad Hariri est loin de se retirer du jeu politique libanais, mais sa démission ne suffit pas pour le moment à apaiser les slogans dégagistes des manifestants.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils doivent tous partir. C'est le slogan que l'on entendait le plus et qui résume les attentes de la rue. Hier soir encore, une rue libanaise qui ne semble pas dupe de la manœuvre dont on vient de parler de la part d'un Saad Hariri. C'est en tout cas ainsi que le juge Ryan El Amine dans The Middle East Eye, qui reste tout de même l'une des expressions les plus pures de cette classe dominante sectaire produite par des décennies de systèmes consensuel, ce système de répartition du pouvoir entre communautés religieuses au Liban. Et c'est bien ce système que les contestataires d'octobre veulent abattre. Dans un pays où le souvenir de la guerre civile reste très vif, ce qui peut sortir de cette révolution-là a de quoi inquiéter. Les défis sont nombreux, à commencer par celui qui va consister à éviter un retour des tensions interreligieuses. Mais Ryan El Amine veut croire que depuis deux semaines, la révolte a fait naître au Liban une nouvelle culture politique, pacifique, décentralisée, hors des partis politiques constitués. Un mouvement qui vient de la base avec tout ce que cela peut avoir de désordonné, mais qui semble mûr pour dépasser le vieux modèle confessionnel, pour bâtir à la place un système centré sur la recherche de la justice sociale, le rejet aussi du néolibéralisme qui, selon cette opinion du Middle East Eye, a fait le lit de la corruption généralisée au Liban. Voilà donc un parti pris optimiste pour la suite des événements, pour contrebalancer. On pourra citer le commentaire signé Svi Barel dans le quotidien israélien Haaretz, après avoir fait le constat du blocage politique actuel. Justement, dû au système de répartition confessionnelle du pouvoir, Barel, en vieux connaisseur de la politique au Proche-Orient, fait ce même pronostic de la formation d'un gouvernement de technocrates aussi neutre que possible, dirigé possiblement par Saad Hariri, le temps d'organiser des élections, le genre de compromis, reconnaît l'Israélien, qui ne satisfait personne, mais qui permet à l'État de survivre jusqu'à la prochaine crise.
Je vois nos deux invités, la grand reporter Sophia Amara et le politiste Bertrand Badi, opiné du chef. On va reparler de la situation au Liban dans quelques instants, mais en attendant, on change de sujet. En 2050, Camille Manière, vous aurez 22 ans et Greta Thunberg aura 47 ans et 300 millions de terriens auront les pieds dans l'eau.
Et moi, d'ici là, je ne peux que vous conseiller de vous plonger dans les cartes interactives qui sont publiées depuis la nuit dernière par le New York Times. On dit souvent que les prophéties alarmantes de nos scientifiques sur les conséquences du réchauffement climatique ne sont pas assez incarnées, pas assez précises. Là, vous ne pourrez pas dire que l'on ne vous a pas montré. On parle donc d'une nouvelle étude publiée par la revue Nature, des chercheurs américains qui mettent à jour, avec l'aide de l'intelligence artificielle, les prévisions sur la montée des océans. conséquence de la fonte des glaciers et des calottes polaires. Et les nouveaux calculs sont sans appel. Les cartes comparatives du New York Times l'illustrent parfaitement. Plus de la moitié du territoire d'Ho Chi Minh-ville au Vietnam, par exemple, devrait être sous les eaux en 2050, soit dans 30 ans. C'est encore pire pour Bangkok, en Thaïlande, pays où l'on sait désormais que 10% de la population actuelle vit dans des régions menacées par la montée des eaux. Dans l'ancienne projection, on en comptait 10 fois moins. Vous pourrez aussi dire adieu au centre-ville de Shanghai et à une grande partie de Mumbai, en Inde, où l'Indian Express affirme que 36 millions d'habitants vont être chassés de chez eux dans les 30 ans à venir. Et c'est surtout ça qui est alarmant, les conséquences démographiques, les déplacements de population qui s'annoncent, les conflits aussi autour de la possession des terres raréfiées. Attention enfin à ne pas croire que cela se limite à l'Asie. Alexandrie en Égypte, Basra en Iran sont aussi parmi les villes côtières menacées et cartographiées par le New York Times. Des cartes donc et des chiffres qu'il faut rappeler. 300 millions de terriens sont menacés par la montée des océans d'ici 2050 et plus du double, 630 millions à l'horizon 2100.
Merci Camille Magnard. On va revenir sur la situation au Liban que vous venez d'évoquer.